Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Rebonjour à tous et à tous. Il est actuellement 10h30 sur les ondes de la CFAQ. Je suis présentement accompagnée de Louis-Philippe Jeannard, qui est le coordinateur du volet protection à la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées immigrantes. Alors aujourd'hui, il est là pour nous parler du plan du Québec en immigration, des conclusions injustifiables sur le plan humanitaire. Bonjour Louis-Philippe, comment ça va?
Bonjour, ça va bien et vous?
Ça va bien, merci. Alors, pour commencer, vous réagissez vivement au nouveau plan québécois en immigration. Comment décrirez-vous les grandes orientations annoncées par le Québec?
Évidemment, c'est très décevant, je dirais, du point de vue du milieu communautaire, puis des personnes là, qui sont accompagnées par les organismes du réseau. On sent qu'il y a un grand manque d'écoute, là, non seulement de notre point de vue, de notre expertise, mais de façon générale de la société civile. Là. Il y a eu un mois d'audience, je pense 90 intervenants qui ont été entendus, 140 mémoires, puis on le voit là, dans l'actualité, le gouvernement semble surtout avoir réussi à faire l'unanimité contre ses choix. Par exemple, là, sur la question de l'équilibre entre les niveaux d'immigration permanente et d'immigration temporaire, les syndicats et le patronat sont d'accord pour dire que le gouvernement là, s'en va dans la mauvaise direction. Donc, c'est quand même assez parlant que ces deux acteurs-là qui sont d'accord sur peu de sujets ensemble, dénoncent la décision du gouvernement.
Parfait. Et qu'est-ce qui, selon vous, pose problème dès le départ avec tout le plan du gouvernement de la CAQ?
Je pense que la prémisse sur laquelle sont fondées les orientations retenues par le gouvernement, en tout cas, nous, pose plusieurs problèmes de notre point de vue. Le gouvernement, martèle que la capacité d'accueil du Québec est atteinte, puis on l'a beaucoup entendu ces dernières années, parler des impacts de l'immigration temporaire, des impacts de l'arrivée des personnes en demande d'asile. Mm-hmm. Puis c'est ça qui sert de justificatif à différentes restrictions. D'une part, le gouvernement reconnaissait lui-même là, dans le cahier de consultation que la capacité d'accueil, c'est pas un concept scientifique qui est pas fondé sur les faits, en tout cas qui est mal documenté. Nous, ce qu'on a observé, c'est que c'est surtout utilisé de façon à blâmer les personnes migrantes là, pour une majorité de problèmes sociaux. Mm-hmm. Puis quand on regarde les résultats de la planification, ou en tout cas ce qui est retenu, surtout sur le plan de l'équilibre entre les niveaux de l'immigration permanente et l'immigration temporaire, c'est qu'on observe une diminution assez drastique là, de l'ordre de 30% des niveaux de l'immigration permanente, mais du côté de l'immigration temporaire, une diminution de seulement 13%. Fait qu'il y a comme un jeu d'équilibre qui fonctionne pas à cet égard-là. Puis bon, tu sais, de favoriser finalement l'immigration temporaire au détriment de l'immigration permanente, ben c'est sûr que ça vient avec davantage de précarité pour les personnes qui ont un statut temporaire, puisque une autre des décisions qui a été retenue, c'est l'abandon du programme de l'expérience québécoise qui offrait quand même pour les personnes avec un statut temporaire une certaine prévisibilité ou du moins une voie d'accès à la résidence permanente un peu plus claire, alors que là, avec le nouveau programme là, de sélection des travailleurs qualifiés, c'est pas du tout le cas.
Ben oui, effectivement. Alors, le gouvernement de la CAQ aurait balayé d'un revers de la main les recommandations des acteurs de terrain pour qu'on comprenne mieux. Qu'est-ce que les organismes avaient proposé?
De notre côté, je dirais, par rapport à l'immigration temporaire, c'est de vraiment réduire, pas réduire l'immigration temporaire, mais vraiment favoriser la résidence permanente. L'arrivée des personnes directement avec un statut de résident permanent qui donne accès à davantage de droits, qui donne accès à davantage de services. Qui permet, dans le fond, une intégration plus harmonieuse, plus facile. On sait aussi qu'avec les statuts temporaires, peut venir beaucoup de précarité, notamment pour les personnes qui arrivent là, via le programme des travailleurs mm-hmm. étrangers temporaires, qui fonctionne avec un permis de travail fermé, qui lie les personnes à un employeur en particulier, ce qui laisse énormément de place aux abus et à l'exploitation, là, comme c'est mm-hmm. un phénomène qui est assez bien documenté. Il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect aussi de notre côté par rapport à l'immigration humanitaire. Mm-hmm. On sait qu'il y a beaucoup de... le Québec a reçu beaucoup de personnes en demande d'asile ces dernières années. La majorité sont acceptées. Puis aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont reçu une décision positive, donc qui sont réfugiées, qui sont appelées à s'établir au Québec, mais qui, en raison là, de délais causés par les seuils d'immigration, sont en attente de leur résidence permanente. Mais ce que ça cause, ça, c'est que ça ralentit le processus d'intégration, ça complexifie l'accès aux services. Les personnes aussi restent séparées des membres de leur famille. Par exemple, on entend parler de cas où, une maman est arrivée ici, a obtenu le statut de réfugié, mais il y a de ses enfants qui sont restés au pays d'origine. Puis là, elle doit attendre, là, maintenant, avec les niveaux d'immigration, jusqu'à 10 ans pour accéder à la résidence permanente, puis 10 ans pour que ses enfants puissent venir la rejoindre mm-hmm. au pays. Donc, on demandait également, par exemple, pour cette catégorie-là, là, les personnes protégées, qu'elles ne soient pas soumises au niveau d'immigration, donc qu'on puisse leur octroyer la résidence permanente de mm-hmm. façon continue pour mieux les accueillir, mm-hmm. pour leur permettre une meilleure intégration, mm-hmm. c'est un meilleur accès au marché du travail, à des services d'employabilité, par exemple. Mm-hmm. Donc, ça, c'était une autre de nos demandes qui n'a pas été entendue. Également, on demandait quand même un maintien des engagements humanitaires du Québec à l'international en ce qui concerne la réinstallation des personnes réfugiées, donc des personnes qui sont réfugiées à l'étranger. Là, par exemple, quelqu'un qui a fui de la Syrie, qui est réfugié au Liban, mais qui, pour une raison ou une autre, peut pas rester là, ben, tu sais, il y a la possibilité de réinstaller des personnes réfugiées qui arrivent directement avec la résidence permanente. Mm-hmm. Puis ça, malheureusement, le gouvernement du Québec invoque là, la présence des personnes en demande d'asile au Québec pour justifier une diminution de ces cibles-là. C'est vraiment réduit à peau de chagrin, là, la réinstallation des réfugiés. Ça va représenter là, moins de 2% des niveaux d'immigration pour 2026. Okay. Fait que ça, c'est un élément aussi qu'on déplore, là, vraiment un abandon des engagements humanitaires mm-hmm. du Québec qui favorise, encore une fois, un peu à l'instar là, du gouvernement fédéral, l'immigration économique, ce qui entraîne des délais là, dans les autres catégories d'immigration.
Parfait. Mais aussi, il semble que des délais d'attente qui peuvent aller jusqu'à 28 ans et 50 ans pour certaines catégories humanitaires. D'un point de vue opérationnel et administratif, comment en arrive-t-on à des projections aussi élevées?
Bien, c'est justement en raison des priorités données à certaines catégories d'immigration, de la diminution du niveau global des niveaux d'immigration. Ça fait en sorte que pour des catégories un peu plus marginales, je dirais, là, comme la catégorie de la résidence permanente pour motif humanitaire, donc des personnes là, qui sont présentes, par exemple, au Québec, qui, pour une raison ou une autre, là, font des demandes dans cette catégorie-là, bien, ça fait en sorte qu'il y a très peu de places d'immigration, très peu de résidences permanentes qui leur sont allouées chaque année. Alors que, au vu de la situation mondiale, des déplacements forcés là, qui sont en pleine explosion sur le plan mondial, il y a quand même plusieurs personnes qui se retrouvent là, dans des situations mm-hmm. où ils ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine. Donc, on a une plus grande population au Québec. Par exemple, là, justement, dans cette catégorie-là, on est rendu environ là, 12 800 personnes qui attendent leur demande, qui attendent plutôt leur résidence permanente. Mais les seuils au Québec sont de, selon le plan d'immigration 2026, là, de 450. Donc, on va seulement allouer la résidence permanente à 450 personnes parmi les 12 800 qui sont en attente, ce qui nous mène à des délais de 28 ans là, pour une personne qui déposerait une demande aujourd'hui, mm-hmm. 28 ans avant d'avoir la résidence permanente puis une certaine stabilité.
Parfait. Enfin, vous affirmez que miser sur l'exclusion et la précarité mettra en péril le progrès de la société québécoise dans tout son ensemble. Sur un plan plus structurel, comment voyez-vous le lien entre un système d'immigration plus inclusive et la volonté d'accueillir des gens, le droit des personnes et le développement social du Québec?
Ça surtout, c'est surtout en lien, je dirais, avec les différents services qui sont offerts aux personnes qui dépendent largement du statut, les personnes avec un statut plus précaire, plus temporaire, où les personnes en demande d'asile ont accès à moins de services, donc moins d'accompagnement financé par le gouvernement pour favoriser leur intégration. Je pense qu'un des meilleurs exemples, c'est la situation des personnes en demande d'asile qui n'ont pas accès à ou qui ont accès à très, très peu de mesures d'employabilité, c'est-à-dire à des services de recherche d'emploi, d'accompagnement dans ces démarches-là, ce qui fait en sorte que leur accès au marché du travail se trouve vraiment plus complexe. On pourrait les aider davantage à se trouver des emplois qui correspondent à leur qualification, à leurs compétences. Alors, c'est ça, en n'offrant pas cet accueil-là, on retarde le processus d'intégration, mais ça fait aussi en sorte que une personne qui n'arrive pas à se trouver un emploi va demeurer, par exemple, sur l'aide sociale, contre son gré. C'est pas parce que la personne fait des démarches, mais a besoin d'un petit coup de pouce. Puis à ce moment-là, évidemment, l'aide sociale, ça coûte de l'argent à la société, plutôt que d'avoir une personne qui peut travailler, payer des impôts, payer des taxes sur ce qu'elle consomme. Fait que, d'un point de vue économique, ça me semble du moins logique de permettre une meilleure intégration au marché du travail de ces personnes-là, mais aussi sur le plan humain, c'est le fait d'avoir des délais de 10 ans pour les demandes, pour les personnes en réfugiés avant de pouvoir être réunies avec les membres de leur famille. Mais évidemment, la séparation familiale a des impacts très importants sur la santé mentale, sur le processus d'intégration. C'est difficile d'aller de l'avant en portant toujours le poids de la séparation. Donc aussi, c'est des personnes qui finalement se retrouvent peut-être un peu moins épanouies, puis qui ne contribuent pas des mille et une façons qu'elles pourraient le faire à la société québécoise. C'est pour ça qu'on dit qu'en favorisant pas l'inclusion des personnes, on se tire collectivement un peu dans le pied, en gardant des personnes à la marge.
Parfait. Merci beaucoup, Louis-Philippe.
Ça me fait plaisir.
Merci. Bonne journée.